Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Ces grandes avenues se coupent orthogonalement des limites des espaces de briques rouges. C'est quand même assez extraordinaire. On est dans une sorte de ville à l'intérieur de la ville de Mulhouse. Et donc, c'est cette découverte qui, très souvent, pour beaucoup de citoyens, est une révélation.
Univox.
Pourquoi il est intéressant? Pourquoi cette usine? Généralement, quand on passe à côté d'une usine, on change de trottoir tellement c'est laid. On ne peut pas la regarder.
Pierre Fluc.
Eh bien, pourquoi elle est intéressante? Parce que c'est l'Alsace est une région emblématique à cet égard. Georges Bischoff, l'historien, a dit l'image que véhicule l'Alsace, c'est les châteaux en ruine, les églises et les maisons à colombages croulant sous les géraniums. Voilà ce que l'image veut se donner, l'Alsace veut se donner cette image de ruralité. Or, l'Alsace est une région qui a vécu, la moitié des Alsaciens ont vécu pendant plusieurs centaines d'années par l'industrie et pour l'industrie. L'industrie est viscéralement liée à l'identité alsacienne. Ces usines, certaines peuvent être belles, certaines sont remarquables, et réalisons que nos parents, peut-être, nos grands-parents, sûrement, nos arrière-grands-parents, ont travaillé dans cette usine. Ils ont produit, ça a été un morceau de leur vie, ça a été même le cadre où ils ont passé peut-être le plus clair de leur existence.
Comment j'ai commencé? Comment j'ai pu rentrer? Tout simplement parce que j'avais mes parents, j'avais mon père, il avait un ami, quelqu'un qui habitait en face, il était contremaître ici. Comme je vivais encore avec mes parents, il y avait donc l'ami à mon père. Il m'a dit, mais Tonio, tu fais quoi? Je dis, écoute, je travaille chez Sarunito. Il a dit, laisse tomber, c'est trop dur pour toi et tout, quoi. Ça te dit de venir chez DMC? Je savais même pas où c'était DMC. Je dis, écoute, ouais, pourquoi pas, ouais. Il a dit, écoute, tu te présentes demain matin à 7h. J'ai dit, ok, ça marche. Et le lendemain, j'ai commencé ici, quoi. Comme merceriseur, c'est-à-dire dans une machine où ce qu'on mercerise le fil, c'est-à-dire que quand on mercerise le fil, c'est pour donner la brillance du fil et cette solidité du fil. Et je travaillais là, il y avait une production à faire, et petit à petit, je suis devenu un teinturier, quoi. Voilà. Et donc les années ont passé, et là aujourd'hui, je suis polyvalent. Mon métier, c'est teinturier, quoi. J'aime ce métier.
Univox.
Le site industriel de DMC, qui progressivement, ça ressemble à une sorte de gigantesque organisme qui se construit, qui grandit, qui se transforme. On a de temps à autre des bâtiments qui prennent la place d'autres plus anciens, qui se transforment, qui se métamorphosent comme quelque chose de vivant. Et c'est un défi pour l'archéologue du fait industriel que d'essayer de restituer dans l'espace et dans le temps cette évolution spatio-temporelle qui est une sorte de gigantesque puzzle très, très intéressant à décrire, à comprendre. Pour ce faire, évidemment, eh bien, c'est le travail sur archives qui apporte l'essentiel de l'information pour une raison très simple, c'est que les parties anciennes de DMC, entre la fondation en 1800 et l'extrême fin, les dernières décennies du 19e siècle, eh bien, ces parties anciennes n'existent plus. Au plus fort de son extension ou de son étendue, vers 1850, l'empire DMC occupait une quarantaine d'hectares en étendue. C'est une des grandes usines d'Europe continentale.
DMC tourne encore. Ils sont quoi, 300, 400 personnes. C'est vrai, ils sont plus 6000, mais ils sont 300, 400 personnes qui tournent encore. Alors, ils teignent le fil, mais le fil, ils le vendent. Je veux dire, ils le vendent dans le monde entier. C'est réputé, c'est une qualité, un savoir-faire qui est réputé.
Quand je suis rentré là-dedans, il y avait les trois équipes. Vous savez combien on était par équipe? Au moins une quarantaine de personnes. Une quarantaine de personnes par équipe. Par équipe. Bon, la nuit, il n'y avait pas 40, il y avait une vingtaine. Aujourd'hui, c'est boire un, deux, trois minimum. Fini. Bon, changement. Tout ça, je l'ai ici. Hein. C'est dans ma mémoire. Hein. C'est comme si c'était hier. Je le vois encore. Tout est mort. C'est foutu.
Univox.
1746, fabrication d'indienne, impression de dessin à la main sur étoffe de coton. 1800, création de la société Dollfuss, Mig et compagnie. 1806, création d'un tissage mécanique.
Et 1807, première machine à imprimer sur tissu.
1808, ouverture d'une maison de vente à Paris.
1812, création d'une filature.
1813, première machine à vapeur.
1821,
1829,
1847, filature DMC. 1850,
les cités ouvrières.
1852, fin du filage et du blanchiment.
1853,
1854,
compagnie à
Meluz et à Dornay.
1886,
Thérèse Dimon.
1910,
fil à broder.
Début de la construction des bâtiments. Allant jusqu'à 4 étages de haut et 230 mètres de long.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Friche DMC.
Post-industriel.
Motoco.
Univox.
Cette histoire mulhousienne, DMC, donc une partie de l'usine qui tourne encore et une autre partie qui, elle, est à l'abandon. Un cas qui n'est pas isolé en France. Un grand nombre de villes ont ce défi de reconvertir leurs friches par divers moyens. On est avec Lucas, qui est en deuxième année de BTS assistant manager. Et on est aussi avec Jeanne qui connaît très bien ce lieu. Radio MNE est au cœur de ce site historique. Alors, Lucas, donc toi, tu as découvert ce lieu il n'y a pas si longtemps.
En fait, je savais que ma grand-mère travaillait chez DMC. Elle nous racontait des histoires, qu'elle travaillait chez DMC ici même. Et par curiosité et en même temps par envie, je suis venu découvrir ce lieu parce que, comme dit, d'énormes friches industrielles, ça pousse à la curiosité. Et j'ai découvert que dans le bâtiment 75, il y avait encore de la vie. Et c'est là que j'ai entendu parler de Motoco.
Mais voilà, parce qu'on parle de friche vide, mais celle-ci n'est pas tout à fait vide, puisque le bâtiment 75 est occupé par tout un tas d'âmes qui sont pour la plupart des artistes, mais la radio aussi. Et c'est un projet qui a été initié en 2014 par une école, en fait, l'école Hyperwerk de Bâle. Et puis on va pouvoir se rendre compte que c'est pas si évident de remettre de la vie dans des lieux vides.
Un projet post-industriel, hein, Mulhouse à l'ère post-industrielle, c'était donc cette ville aux 100 cheminées. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de cheminées, beaucoup moins d'usines. Est-ce que ces espaces sont destinés à réellement pourrir sur place, ou va-t-on pouvoir réintégrer à la fois de la vie, mais aussi, pourquoi pas, de l'emploi? Puisqu'on l'a entendu en ce début de programme, c'était jusqu'à 6000 ouvriers à la grande époque. Aujourd'hui, encore 150. En 2017, on a entendu quelque chose comme 300, 400 sur des sons qui ont été enregistrés en 2015 à notre arrivée ici. Et on vous propose d'écouter le maire de Mulhouse, Jean Rotner, en 2014, au début du projet.
La grande époque de Motoco.
Vous avez une envie, vous avez une ambition, vous avez une initiative, vous êtes créateur, vous êtes innovateur, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de fonder une entreprise dans la création, dans le design, dans la culture, dans toutes les formes finalement d'innovation. Vous avez la possibilité de le faire ici à Mulhouse sur et dans le cadre d'un nouveau projet qui s'appelle Open Park. Vous avez ici la possibilité de vous réaliser et de réaliser le rêve de votre vie. Venez nous rejoindre.
Univox.
Motoco Open Park, c'était le projet de faire plein de motocos sur ce grand site rempli de bâtiments vides.
Et on peut entendre là qu'à l'époque où ce projet était encore associatif, que la mairie était déjà très enchantée par le remplissage de ces murs par des artistes, artisans et entreprises créatives.
Effectivement, on sentait qu'il y avait une bonne énergie à cette époque.
C'était aussi l'avis de l'ancienne direction, des résidents et puis des Mulhousiens et des Mulhousiennes. On écoute tout de suite.
Chers Mulhousiens, liebe Leute von Basel, venez à Motoko, venez à Open Park, inscrivez-vous sur notre site web parce qu'il nous faut des gens compétents. On crée 4 associations, on a besoin de vous et de votre support. Et maintenant, c'est l'occasion de vraiment ensemble transformer le monde.
Le projet, il est vraiment bien connu, quoi. Mulhouse, j'ai l'impression, même vraiment au-delà des gens qui suivent un petit peu l'actu culturelle,
oui,
etc.
Oui, je crois que ça va au-delà. Pas même, ça va déjà au-delà.
Déjà, bon, que ce soit dans les médias et tout, quoi, le fait de faire des portes ouvertes, ouais. ça a quand même ramené beaucoup de monde. Il y a tellement de gens qui étaient curieux, simplement, qui aient ces hectares et ces hectares de friches. Bon, je pense que c'est assez bien vu aussi, voilà, qui est un petit peu les voisins de Bâle, de ouais. Colmar d'ailleurs aussi, ouais, voilà. qui viennent exprès ici. Ça va marquer ça, à mon avis, quoi, la vie culturelle.
Déjà le bâtiment, le grand parc, c'est quand même quelque chose de voilà, assez marquant, et on s'est dit ah, ici c'est trop bien, il faut qu'on en parle à plein de monde. Alors voilà, on en a parlé à nos voisins, on en a parlé à des amis qui sont venus la dernière fois.
Si les artistes perdurent, ok, on peut avancer. Si ça ne perdure pas, on rase.
Ah ouais, si les artistes ne tiennent pas, il n'y a rien qui tient.
Non, voilà. Oui, parce qu'il faut être un peu.
Ouais, il faut.
Hein, il faut quand même un peu.
Il faut aimer ça. Hein.
Plus qu'aimer, on va dire. Ah,
il
ouais.
Hein, faut être habité.
Habité, voilà, totalement habité.
Ça va super bien. C'est de la radio, de la télé. Il y a quelque chose, quand tu arrives ici, tu te dis que finalement tout est possible à Mulhouse. Il y a trop de gens qui pensent que Mulhouse, c'est vraiment une terre de l'impossible.
De désolation.
Et finalement, je pense que des gens d'ailleurs, d'autres villes, dans les alentours qui viennent à Motoko, s'ils voient que Motoko, ils disent que c'est une ville fabuleuse. Donc il faut que ça rejaillisse un peu sur le reste, quoi. Mais j'espère que ça va, surtout que ça va durer, parce que c'est là, on est dans l'énergie du départ, quoi, le début du projet.
Oui, oui.
Et le risque, c'est que il y a de la friture entre les artistes, des choses comme ça. En fait, on a déjà vu ça, hein, donc il faut s'attendre à tout. Oui. Mais là, je trouve que c'est bien parti. En tout cas, c'est hyper stimulant. Enfin, tu as envie de venir assez souvent pour voir comment ça avance. Non, mais ça peut faire envie à plein de gens, je pense, des expériences comme celle-là. Après, on se dit que vu la gueule du site et tout, peut-être qu'il faudra que ça déborde encore un peu plus du bâtiment.
En fait. Ouais, il y a des possibilités, ça effectivement.
Motoko, je vois l'enseigne Motoko, je sais quoi ça, tu vois. Je passe, et puis au retour, je repasse, je vois la porte qui est ouverte. Et Motoko, je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc de vélo. Et donc, du coup, je suis rentré. Et quand je suis rentré, je suis tombé sur David, un pote, là. Il me fait, c'est bien, t'es venu pour les ateliers. Je fais quoi? Il me fait, oui, les ateliers. Enfin, tu viens prendre. Je fais, non, je sais pas. Et puis il m'a dit, il y a des ateliers, machin. Je fais, d'accord, j'ai visité. J'ai compris ce qui se passait. Et puis j'ai dit, moi, cet atelier m'intéresse, tout ça. Quoi. Okay.
Alors, j'ai entendu parler de Motoko par ma fille, qui est donc artisan installée dans le cadre du bâtiment Motoko. Et je pense que. Moi, ça me paraît très intéressant quand il y a un projet dynamique sur une ville qui crée à la fois de l'activité, mais qui crée du futur en commun, je dirais. Ça me paraît bien de pouvoir réfléchir ensemble pour non seulement créer, mais créer une dynamique. Enfin, moi, je le sens comme un peu une dynamique citoyenne, une dynamique qui a de l'impact sur le milieu. Enfin, c'est ce qui m'intéresse au-delà du fait d'une possibilité d'installation.
Univox.
Et maintenant, en 2017, Luc, comment est-ce que c'est Motoko ?
Je vous propose qu'on aille faire un tour dans le bâtiment 75.
Univox.
Alors Luc, où est-ce qu'on est ?
On est à Motoko, hein, donc deuxième étage, tout en haut, au fond, au bout. Et là, on est du coup chez l'artiste Ivan Bridgki. D'ailleurs, il s'est fait une mezzanine, il a vu sur le plan d'eau. Et c'est ici que j'avais mon premier atelier, moi, au tout début de Motoko. Tiens, d'ailleurs, il y a encore du matos à moi, quelques trucs. On voit une peinture, l'évier, il n'est plus là, d'ailleurs. Bon, voilà, ouais, ça bouge. Et là, c'était 2014. Alors là, on arrive dans un grand espace, c'est vide. Alors il y a eu tout un tas de projets ici. À un moment, à la base, les gens qui avaient le bâtiment, ils avaient l'idée, eux, ils avaient pour idée de faire leur master de design ici. Et donc c'est du design post-industriel. Et post-industriel, voilà, Mulhouse, on peut le dire, ça c'est des pigeons, je pense. Mulhouse est une ville post-industrielle, hein. Tu as vu ces cheminées, tout ça. Ici, c'est l'atelier de trois artistes mulhousiens qui se le partagent. Pareil, il n'y a personne. Là, on est aussi sur encore un atelier vide avec personne. Et à ma droite, encore un atelier, une artiste cette fois-ci. Donc voilà, on est en plein après-midi. Il n'y a aucune activité au deuxième étage. Et si tu veux, c'est comme ça un peu depuis 2 ans.
Les lieux sont énormes. Il y a de très grands espaces. On voit que certaines personnes se sont aménagées des ateliers.
Bah ouais, regarde, là, c'est belle. Ça, c'est encore du bâtiment à l'origine. Et voilà, ouais, c'est ça. En fait, tout est prêt. On dirait que ça vit, en fait, si tu veux. Mais c'est comme s'ils étaient partis vite fait en courant, quoi. Et ça date quand même un petit peu déjà avant la reprise en main par la mairie de Mulhouse. On peut dire que le collectif, il n'a pas duré longtemps, le collectif Motoko. Néanmoins, le lieu a continué pendant longtemps à attirer du monde. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé ces derniers temps qui fait que là, c'est vide. On va prendre à gauche, là.
Donc c'est plus un lieu réservé aux artisans et aux artistes, ou c'est vraiment un lieu ouvert à tous?
En fait, il y a eu longtemps un recrutement hasardeux. Alors on ne sait pas comment ce sera demain. Chacun vient, s'il se plaisait un petit peu avec l'ancienne directrice. On disait que c'était pour les artistes, les artisans, les designers, les médias. Des métiers comme ça, et en fait il y a eu un peu un moment tout, des artistes de salon aussi, enfin, c'est pas méchant, mais des gens qui peignaient devant la télé avant et qui se sont dit « Ah tiens, c'est mignon ici ».
Ça a été un peu brouillon, la réalisation de Motoko?
Bah, l'idée était pas mauvaise de mettre tout le monde dans Melting Pot, dans un bâtiment abandonné depuis 20 ans et de voir ce que ça donne. Ils appelaient ça un laboratoire sociétal, enfin c'est encore un peu ça. Là, il y a un studio d'enregistrement. Eux, pareil, ça bosse, hein. Ils enregistrent des artistes, Claudio Capéo dernièrement. Ancien bureau de la direction, là, de l'ancienne direction, du coup. Là, on est sur 2 ateliers très actifs. Il y a l'artiste mulhousien Pierre Frankel à gauche et Nicolas Aramu à droite, qui, eux, c'est non-stop, quoi. On peut presque dire du lundi au dimanche.
Eh ben, écoute, Luc, je vais te proposer d'aller voir Nicolas Aramu.
Ouais. Pour moi, Motoko, c'est un château de l'art. Ça fait partie d'une association des artistes, des artisans, un mélanger de art, type. J'ai pas eu mon atelier, ouais, tous les mois. Sur 200 euros, comme ça. Évidemment, sur 250, 200. Matériel et tout ça. Chaque jour, c'est un jour différent. Chaque jour, j'ai mon énergie différente. Mais pour moi, avant, ici, il y avait un grand travail. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. Encore un peu de cette énergie. Moi, je sais que dans mes ateliers, il y avait des gens qui travaillaient tous les jours. Comme moi, maintenant, je travaille tous les jours. Je lui donnais un peu de vie, au final. L'art redonne un peu de vie à les choses.
Et du coup, le fait que des anciennes usines se transforment en un milieu culturel, c'est une bonne idée?
C'est la mode. Maintenant, avoir un atelier dans une usine, c'est totalement top.
Fashion,
c'est le top. Pour moi, c'est un bel endroit, parce qu'au final, c'est une grande pace. C'est bien, non? La paix, non? L'harmonie, c'est un bel endroit.
C'est quoi la grande différence entre les artistes qui étaient à la direction et maintenant la mairie à la direction? Il y a une différence?
Une différence. Moi, attendre, au final, attendre à voir ce qui se passe. C'est la possibilité de donner vie à cet endroit qui c'est de la mairie. Et donc, j'espère qu'une bonne énergie.
Et l'artiste géorgien Irakli Shkartishvili nous disait il retrouvera plus jamais, lui, l'énergie du début.
Non, moi je pense que le début, sur toutes les choses, c'est la chose plus belle, type. Le premier bisou, c'est le plus, bisou plus belle de ma vie. Bon, au final, le temps fait si que les choses changent pour moi, travailler et avancer.
Il y a beaucoup de grands espaces qui sont vides. Tu as une idée de comment est-ce qu'on pourrait les combler ?
Ouais, con énergie, réalisation des passions, des pop-corn, magari. Vendre des pop-corn. Pour moi, une chose qui marche bien ici, c'est une grande cantine où il y a un peu d'art, où il y a un peu de théâtre. Se mange dans un endroit, dentro un'usine, poi c'è très belle à l'été, che hai la rivière avec les nymphées, c'è très spécial. Buongiorno, Radio Campus Francia!
Allez, ciao!
Ciao!
Il y a deux gros facteurs qui ont peut-être fait que ça pète. Bah, le premier, c'était la mauvaise gestion, la mauvaise direction. Et le deuxième facteur, bah, c'est les gens ici qui... Quand tu mets... il y avait quoi ? Il y avait 60 artistes au début. Aux premières réunions, ça se tapait déjà dessus, tu vois. Là, c'est mon atelier actuel. En fait, il y avait la première règle au tout début. C'était... vous avez le droit de faire du bruit dans ce lieu, mais que la nuit. Alors, tu peux imaginer, c'était... C'était interdit de dormir ici, mais bon, si on travaillait la nuit, on n'allait pas partir à 4h du mat. Très vite, ça avait des allures alternatives, underground, qui m'ont un peu effrayé, qui ont effrayé les gens, hein, qui étaient acteurs de ce truc, aussi bien les locataires que la direction. Et là est intervenu un chantier de rénovation pour l'accueil du public, machin. Et là, je pense que là aussi, ça a commencé un peu à vriller. Le fait de rénover, on a vu des portes d'un WC qui aurait pu, je sais pas, c'était des portes de menuiserie, du bois, enfin ça se peut c'était classé, hop, ils sont partis à la poubelle pour rendre des WC aux normes, mais finalement en plus il n'y a rien qui se passe après le chantier, c'est ça le pire, il n'y a jamais eu d'inauguration de chantier, je sais pas, l'architecte il se planque, on ne sait pas trop. Et pareil, l'un des projets que j'ai monté ici, qu'on a monté, qui a été balayé, séché par l'ancienne direction, alors pourtant des designers, des artistes, enfin des gens du monde de la culture, de l'éducation et tout ça, mais non, je sais pas quels sont les intérêts aujourd'hui à DMC pour que beaucoup de projets individuels, même si c'est que des petites, des toutes petites idées, des tout petits germes, ne sont pas soutenus à 100%. Là, on a du mal à comprendre. Là, on arrive dans un espace super vide, donc premier étage, couloir, un ou deux ateliers où ça bosse, mais rien de grand. En fait, on est encore une dizaine, quinzaine à bosser ici. C'est vrai que cette idée de post-industriel, comment réamener de l'emploi dans des lieux comme ici, ils ont tous pris une claque avec leur loyer, qu'ils savent pas où ils sont allés, un bâtiment neuf, mais laissé quasiment à l'abandon, enfin rénové, pas un bâtiment neuf, mais rénové. Je crois qu'on peut accueillir 650 personnes en bas, là. Mais bon, là, tu vois, il y a des ouvriers de la ville qui viennent réparer les portes et machin. Donc, il y a vraiment une reprise en main aujourd'hui de la mairie. Ben, on verra ce que ça donne. Hein. Mais, ouais, effectivement, il y a quand même une perte d'illusion à un moment. Et par contre, l'amour de l'histoire aussi, quoi. En fait, tu peux pas travailler dans ce lieu. Enfin, je pense que tu as du mal aujourd'hui à... Je sais pas, il y a des âmes qui veillent. Et donc même si ce lieu, comme dit, bon, bah, c'était un tout petit germe, c'est devenu un patrimoine textile énorme, ce qu'ils ont monté Dollfus et Mig, tu peux pas aujourd'hui travailler ici sans ce devoir de mémoire, sans pouvoir penser à ce qui s'est passé ici, parce qu'on est sur quelque chose qui peut filer à l'UNESCO, enfin en patrimoine mondial, soit ils l'ont déjà loupé parce qu'ils ont rasé déjà trop de trucs, mais on est sur quelque chose d'unique en Alsace. Peut-être pas en France ni dans le monde, mais là, c'est voilà, terre prometteuse.
Qu'est-ce que Motoko pour vous ?
Motoko, c'est une assoce qui existe ou n'existe plus, mais qui a pour but de réunir tout un tas de savoir-faire, à savoir artisanal et artistique.
Et c'est fait par qui et pour qui, justement ?
Alors, c'est à l'initiative de Micha Chaoub, qui n'est plus là. La ville a repris l'idée, Et pour qui? Pour nous et certainement pour la ville.
Est-ce que vous savez qui finance Motoko?
Là actuellement, nous.
Ce projet est en cours de réalisation ou est-ce qu'il est terminé?
Non, il est loin d'être fini ce projet. Disons qu'il y a un sacré potentiel et qu'on est loin d'avoir tout exploité.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, travailler dans d'anciennes friches industrielles?
C'est le cachet de la pierre, le côté un peu mystique du lieu, et puis c'est une belle opportunité d'être sur un beau site et d'avoir à la fois le luxe de pouvoir fermer la porte et s'atteler à son boulot, et puis de la laisser ouverte et d'échanger avec tous les gens qui s'y trouvent.
Hola compañeros, alors Motoko c'est des gens de différents milieux qui se côtoient et qui travaillent ensemble. C'est un espace de travail avec des libertés qu'on ne trouve pas dans des espaces de travail normaux. C'est pour ça que c'est surtout dirigé vers l'artistique. Les institutions elles font très très peu, même avant j'ai l'impression. Et c'est vraiment les locataires, c'est leur énergie qui contribue à faire ce lieu. Je suis très sensible à ce genre d'endroit. On ressent beaucoup de galères, on ressent un peu le prolétariat, on sent des gens qui travaillent dur. Ouais, ça m'inspire quelque chose d'un peu violent, quoi. Mais ça m'aide dans ma production, c'est très important. Justement, la violence, ça, c'est rouge, quoi. C'est la force, c'est ça que ça m'inspire. C'est quelque chose de plus actif que joyeux, bisounours, c'est tranchant, dur, et j'aime ça. Les vanités qui passent ici, elles viennent, elles passent 10 minutes, elles regardent les murs, ah oui, c'est DMC, ah oui, mon grand-père, mais ils font rien de spécial ici. Les seuls qui font ici des choses, c'est ceux qui font des soirées qui bougent, et on a de l'espace en bas, on peut faire des choses immenses. Il faudrait en faire toutes les semaines, il faudrait que ça bouge, une limite H24. En tout cas, il faut absolument pas cloisonner, il faut laisser ces grands espaces comme ça parce que ça, ils ont un charme extraordinaire et on n'en trouvera pas d'autres des comme ça à Mulhouse. C'est des ruines qui aujourd'hui nous servent de terrain de jeu, quoi, et c'est tout.
La situation de l'association Motoko, comme mort tout comme en français, plus à venir, installée dans le bâtiment 75 de la friche DMC à Mulhouse, a défrayé la chronique ces derniers mois. Révélation d'un déficit de 150 000 euros à la mi-octobre et grand déballage au conseil municipal, réunion de crise avec les artistes, puis placement de l'association en liquidation judiciaire quelques semaines plus tard. Malgré ses péripéties judiciaires et financières, le site continue à vivre. Un article du journal L'Alsace, mercredi 23 novembre 2016, qui avait pour titre « Aujourd'hui, Motoko à la bonne franquette, c'est fini ». Réalisation Lucas Martis, mixage Jeanne Roy, guide et archive Luc Huberschlag.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, c'est con.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.